fut. Bonjour. Voilà. Oui, merci, merci. C'est passionnant, c'est stimulant. Et Dieu lui fait cadeau de ces 40 jours, hein, j'en suis persuadé. Et surtout donc le fait d'être ensemble, hein, c'est ça qui me passionne beaucoup, hein, le fait de ne plus être chacun chez soi, mais travailler sur un projet en commun. Je pense que c'est très important. Et j'ai aussi une nouvelle ce matin donc, qui va compléter tout ce que nous avons entendu dès le début, parce que Dieu, s'il répète les choses, c'est parce qu'il veut qu'on puisse capter quand même le fond de son cœur. Et son cœur ce matin, c'est aussi 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7, que je vais vous lire. Et ensuite, donc, quelques petits conseils pratiques autour de cela, en rapport avec vivre cette qualification qui est la nôtre, rentrer dans le projet de Dieu, qui est un projet pour chacun, aussi bien que pour toute la communauté. Et donc, Paul dit dans ce texte, il dit ceci, 2 Corinthiens 4, verset 7, « Nous portons ce trésor dans les vases de terre, afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » Amen. Je pense qu'on va le dire tous ensemble. Nous portons ce trésor dans les vases de terre, tous ensemble. Nous portons ce trésor dans les vases de terre, afin que cette puissance supérieure, soit attribuée à Dieu, et non pas à nous. Amen. Ou en sous-titre, on a le droit de rêver. Amen. Parce qu'il n'y a rien qui est impossible à Dieu, mais le défi qui se présente, qui se renouvelle tous les jours, qu'on se sent tellement faible, on ne sent pas du tout à la hauteur, on ne sent pas. En fait, on n'est que des vases fragiles, des vases de terre, hein, avec des défauts, des fissures et toutes sortes de choses là qui remettent en question quelque part le projet de Dieu pour chacun d'entre nous. Donc c'est ça un peu donc, le but de mon message ce matin. Je pense qu'il y a déjà une tendance chez chacun de mettre l'accent, de concentrer plutôt sur le conteneur, hein, le vase de terre, c'est bien le vase, hein, le vase de terre, et pas l'autre. Hein. Le vase de terre, c'est comme tout ce qui est externe. C'est tout ce qui est humain, c'est tout ce qui est physique que je ressens. Cette fatigue dont on a parlé, ce sens de ne pas être à l'auteur, de ne pas pouvoir faire le pas nécessaire. C'est ça, le vase d'argile. Et je pense que dans ce texte, le Seigneur veut que nous puissions retrouver quand même son regard à lui. Regarder plutôt le contenu, ce qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous, parce qu'il y a un trésor précieux, merveilleux, sans valeur à l'intérieur de nous. C'est un dépôt de vie, un dépôt de bien que le Seigneur a mis en place par son esprit. Vous savez, en évoquant ce texte souvent, en fait allusion aussi à l'Ancien Testament et ce que Gédéon il a vécu lorsqu'il était appelé par Dieu, donc d'aller chasser les Madianites. Je rigole parce qu'on vient de le voir sur le numéro 22, je ne sais pas. Dieu lui a dit, va avec la force que tu as. Et Gédéon a tremblé. J'entends encore Luc Mass, il y a quelques jours, en train de dire la même chose. Va avec le peu que tu as. C'est vrai, on est très petit, on n'a pas grand-chose. Si tu savais de quoi je suis fait, humainement parlant, si moi je savais de ce que tu as fait, hein, nous serons étonnés de voir quand même la petitesse Le fait que nous sommes faits avec tellement de fragilité, avec tellement peu de choses à l'intérieur de nous, parce que nous sommes des vases d'argile. Et des vases, ça casse, ça pourrit, ça porte toutes sortes de défauts. On peut recoller le morceau des fois, mais finalement, ça reste très, très tendance casse, et puis on a l'impression qu'il faut jeter. Mais on est comme ça, humainement parlant. Et puis Gédéon, il a compris le message de Dieu et il est parti, même en évoquant le fait qu'il était le plus petit dans sa tribu. Il avait très peu de choses qui allaient pour lui. Il est parti et il a entendu l'ordre de Dieu. Et en allant vers le camp des Madianites, il a suivi à la lettre donc, les commandements de Dieu. Il s'est mis avec les 100 qui lui restaient, parce que Dieu il a dû faire le tri, n'est-ce pas? Et ça, c'est encore, je pense, une vision de tout ce qui est petitesse et fragilité. Ils étaient à combien? À 20 000 à la lancée. Et Dieu lui dit non, il faut revenir à 100. 100 personnes, ou c'était 300, je pense. 300. Voilà, j'ai recalculé. Merci. Et donc, avec quoi? Mais avec un cri. Avec le son du corps. Et je pense que ça doit faire un sacré peur à l'ennemi. Hein. Mais en fait, avec aussi des cruches à l'intérieur desquelles il y avait quand même les lampes. Et en brisant les cruches au son de la trompette, au son du corps, l'ennemi a fui. Dieu, il a mis la zizanie. Et donc, ce qui devait être quand même un sacré défaite vis-à-vis de Gédéon, c'était une glorieuse victoire parce qu'il est rentré dans le combat avec le peu qu'il avait, mais en comptant sur le Seigneur. Amen. Vous savez, c'est possible de piller l'ennemi. C'est possible de piller l'ennemi et de revenir avec toutes sortes de choses que le Seigneur nous a libérées parce qu'on a eu envie, on a osé aller jusque chez lui et de mettre la main sur les choses qui appartiennent à Dieu. Je pense qu'il y a un pasteur belge là, qui me disait il y a un an ou deux, là, quand lui avait volé, c'est un pasteur artisan, hein, donc il avait une belle camionnette, et puis un jour, on lui a volé sa camionnette. Je pense qu'il y avait tout son outillage à l'intérieur, et puis jusque ce jour, il n'a rien trouvé. Bon, on sait où ça est parti, hein, bien sûr, il y en a beaucoup qui partent par là. Mais il me disait qu'il a réclamé au Seigneur de ne pas être donc perdant dans cette affaire, mais plutôt de revenir. Et il a demandé une camionnette pour remplacer celle qui était volée. Et puis il m'a raconté un jour, quelqu'un dans son assemblée lui a téléphoné en disant, écoute, je veux te faire cadeau, je veux t'offrir ma camionnette. Dieu m'a dit, je dois mettre à ta disposition ma camionnette. Et c'est une camionnette exactement du même type que celle qu'il a perdue. Vous savez, Dieu peut récupérer tout, ou plutôt nous pouvons récupérer tout avec Dieu. Même des choses, beaucoup de choses qui ont été volées dans nos vies. Et c'est pour cela que justement, on se sent tellement petit et fragile. Parce que l'ennemi, il enlève. C'est un voleur après tout. Il ne veut pas bouger là. Ça y est. Ok. J'ai trouvé. C'est juste un peu trop bas. Et justement, en lisant en Matthieu 12 hier, j'ai retrouvé que lorsque l'ennemi, vous savez, lorsque un esprit est chassé donc, d'une maison, il s'en va. Si la maison n'est pas nettoyée, le même esprit peut revenir avec combien? 7 autres esprits. Donc l'ennemi, il est aussi parti sur cette idée quand même de multiplier des gains et de voler. Et alors pourquoi pas nous? Pourquoi pas demander au Seigneur de retrouver, multiplier par 7? Parce que c'est déjà la pensée d'ennemi, l'ennemi est copié sur Dieu. Tout ce que l'ennemi il a volé, pourquoi pas lui demander à Dieu de reprendre jusqu'à 7 fois de plus, amen, de ce qu'il a volé. Pourquoi pas? Deuxième chose, il faut faire valoir ce trésor qui est en nous. Il est d'une valeur inestimable. Et ce trésor, pour moi, enfin, une partie de ce trésor est représentée justement par ces désirs brûlants que chacun a à l'intérieur de soi, qu'on est fait pour quelque chose, qu'on est porté d'un projet particulier. Enfin, ça revient à des rêves. Tu as jamais rêvé? Tout le monde a des rêves. Tout le monde a rêvé de faire, d'être, d'accomplir quelque chose pour Dieu. Et puis, et en sachant quand même qu'on est sur terre pour une mission particulière. Mais, ayant rêvé, ça nous arrive à nous sentir frustrés. On commence à penser qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on n'est pas vraiment fait pour ça. Et quelque part, on reçoit des mensonges de l'ennemi, comme quoi Dieu ne va jamais pouvoir se servir de moi. Et puis des rêves sont mis de côté, et on les oublie. Et finalement, on rentre dans des sentiments négatifs, on se sent tellement vulnérable devant la vie de tous les jours. Écoutez, ça c'est le vase de terre qui tremble. Hein? Ça commence à fissurer un peu là. Hein? Vous l'avez vécu, non? Qu'est-ce qui m'arrive? Je pensais être fort, je pensais être puissant, mais d'un seul coup, plus rien du tout, comme Elisabeth disait tout à l'heure. Vous savez, c'est une histoire, je pense, de se retrouver dans son petite zone de confort, où on est tellement à l'aise. Vous savez, c'est la vie tranquille et on n'a plus envie de se dépasser. Et c'est même plus que ça, on a peur. On a peur d'aller plus loin, de franchir un certain seuil et de rentrer dans un projet. Et vous savez, la peur, il y a toutes sortes de fausses idées en rapport avec cette peur. Enfin, entre parenthèses, là, j'ai retrouvé un peu quelques idées-là dans le bouquin que j'ai ici. C'est en anglais, hein, Le donneur de rêves. Donc, c'est par un pasteur américain, Wilkinson, qui avait déjà écrit un livre, La prière de Jabez. Je pense qu'il existe en français. Hein. Donc, c'est encore un livre. Et c'est quelqu'un qui a compris ce qu'il faut rêver. Et puis, il faut rentrer dans ses rêves. Bon, moi, je le connais un peu. Hein, j'ai déjà lu la prière de Jabez. Mais je suis rentré sur son site Internet hier, parce qu'il laisse le site là-dedans. J'ai trouvé jusqu'à quel point il rentre dans ses rêves. Vous savez, il a des... c'est juste une petite histoire. Hein, il a des projets en Afrique dans lesquels il est rentré. En Afrique du Sud, en tant que pasteur américain, il est même... Il habite là-bas depuis 2 ans. Donc, pour accomplir le rêve, il a compris qu'il fallait déménager. Il habite là-bas et il a su monter toutes sortes de choses. Dans une soirée, une fois, il a réclamé, en tant qu'homme de prière, 1000 personnes, hein, pour parrainer des orphelins. Hein. Et puis, en même temps, il a dit, et j'ose croire ce soir qu'une famille ici va se lever pour parrainer 1000 orphelins. Une famille pour parrainer 1000 orphelins. Et ainsi de suite, et de suite, et de suite. Donc ça, et puis ça a marché. Hein. Il a tout. Ils n'ont jamais vu au-delà de 300 orphelins qui ont été adoptés. Mais lui, il est allé plus loin parce qu'il avait un rêve. Et puis un deuxième rêve, je l'ai trouvé sur le site, planter les jardins. Vous savez, il envoie des équipes là-bas en Afrique, partout en Afrique, et il plante les jardins avec des plantes particulières, vous savez, qu'on appelle ça, enfin nourrissantes, bien sûr, hein, pour que les Africains puissent quand même avoir de quoi vivre. Et la parcelle représente à peu près la même taille qu'une porte d'entrée. Donc, c'est comme ça, hein, je ne sais pas, 80, ouais, 1 mètre sur 80, hein, c'est tout. Des centaines de personnes, parce qu'il a rêvé de ça. Bon, je ferme mon parenthèse, hein, donc c'est lui. Et il y a des fausses idées en nous en rapport avec comment rentrer dans nos rêves. Première fausse idée, puisque je sens la peur, mon rêve n'est pas de Dieu. Puisque je sens la peur, je n'ai pas envie de rentrer dans mon rêve parce que je suis peureux. Donc cette peur, ça veut dire que donc, Dieu n'est pas vraiment dans ce projet. C'est faux. C'est un mensonge de l'ennemi. C'est quelque chose de très fort en nous, mais ça ne vient pas de Dieu. Et deuxième chose, je ne peux pas m'avancer que si Dieu enlève cette peur. Je ne peux pas m'avancer que si Dieu enlève cette peur. Donc on s'arrête, on dit « Seigneur, j'ai peur. » Mais on n'ose plus s'avancer parce qu'on veut que Dieu enlève la peur. Non, Gédéon est parti avec sa peur, mais en faisant confiance à Dieu. Et troisième chose, oui, enfin, je viens de le dire, je suis bien où je suis, dans mon petit confort. Vous savez, notre petit confort, c'est le pire ennemi de ton rêve. Ton petit confort, c'est le pire ennemi de ton rêve. Parce que ça devient une prison pour nous, de vivre dans notre petit confort. Et Dieu nous demande quand même d'oser nous avancer, de partir. Et oui, pourquoi pas, changer d'adresse, changer de cœur, franchir un pas pour aller plus loin. Moi, je pensais à ces personnes, vous savez, autour de nous, hein, on les connaît, hein, les voisins, les voisines, hein, qui ont gagné la petite retraite, qui sont bien quand même tranquilles chez eux, dans des belles maisons, avec de beaux jardins. Mais qu'est-ce qu'ils vivent? Moi, j'ai l'impression que la plupart, ils passent la journée, je ne sais pas, je ne veux pas juger, hein. Pas en train de ne rien faire. Moi, je connais qu'ils sont très occupés dans les associations. Mais si on n'a pas de projet, à quoi ça sert? Tout le confort qu'on a gagné depuis des années, si on n'a pas un projet d'avenir, sauf pour attendre la mort. Vous savez, ce trésor qui est en nous, nous sommes les seuls à le faire valider. C'est-à-dire, en poursuivant notre rêve, ce trésor, c'est cette lumière que Dieu a déposée en nous, commence à briller. Ce trésor commence à prendre la valeur parce qu'on rentre dans le projet de Dieu. Lorsque les espions sont allés dans la terre promise, on l'a dit encore, je pense, que ces derniers temps, ils ont parlé de géants. Ils ont vu des géants. Et 10 d'entre les 12 espions ne voulaient pas quand même donner suite parce qu'ils ont eu peur. Mais pourquoi des géants? Pourquoi des géants? Parce qu'il y a toujours des géants autour de nous. Hein? Pour ne pas citer les géants là, qui se trouvent dans le village, hein? Je ne sais pas si c'est à Wavrin. On a deux géants à Wattigny, mais ils sont là, à l'entrée de la mairie depuis des mois et des mois. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais enfin c'est joli, peut-être quelque part. Mais spirituellement parlant, il y a des géants qui rôdent autour de nous. Et pourquoi? C'est parce que la seule manière par laquelle Dieu s'est affiché que lui, il aura toute la gloire et toute l'honneur lorsque tes géants tombent, lorsque tes géants disparaissent. C'est ça. On est devant des géants, on est devant des impossibilités parce que c'est comme ça que Dieu trouve des occasions d'afficher sa propre gloire. S'il n'y a pas vraiment de géants, ben, nous, on pourrait toujours dire, ben, écoute, regarde ce que j'ai fait. J'ai su quand même surmonter, j'ai su quand même me battre, etc. Non, Dieu veut que toute la renommée et toute la gloire reviennent à lui. Pourquoi? Parce que lui, c'est le géant des géants. C'est lui qui le dit dans le bouquin. Dieu, c'est le géant des géants. Et il veut que nous puissions lui faire appel pour qu'il intervienne dans nos situations. 1 Corinthiens 1, verset 24, vous connaissez, pardon, verset 27, je le lis. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Amen. Vous êtes fous? Amen. Fous pour Dieu? Mais c'est exprès, pour que vous puissiez confondre les sages. Et ensuite, Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas pour réduire à rien, celles qui sont. Amen. Troisième point, l'Église a le droit de rêver. On y va là, à partir de maintenant, allez, les 40 jours, on va rêver. Source de vie, petit mais grand. Source de vie, folle, fou, mais sage, pour confondre quand même tout ce que l'ennemi veut mettre devant nous. Pourquoi ? Parce que dans le texte, il y a quand même pourquoi. Hein? Donc, afin que toute la puissance supérieure puisse appartenir à Dieu. Amen. Parce que ce n'est pas l'Église de qui que ce soit ici. C'est l'Église de Jésus-Christ, source de vie. C'est l'Église de Jésus-Christ. C'est son nom qui est affiché. Et source de vie, j'en ai marqué, a la mission de changer la ville. Pas seulement de changer de quelques petits cœurs, oui, bien sûr, Dieu veut changer les cœurs, mais en changeant les cœurs, il veut changer la ville. L'association des réseaux, un fer de lance pour changer la ville, moi j'y crois. Et je serai là à l'Assemblée. Merci pour le courrier. Wow! Parce que Dieu veut que nous puissions vivre des surprises et il faut qu'on soit ensemble pour envahir cette ville qui est autour de nous, le Wavrin et les autres villages. Et Dieu, c'est un Dieu de restauration et de surprise. J'ai pensé à Pierre, vous savez, Pierre, l'apôtre, combien il était un vase d'argile, lui. Hein. Oh, Dieu a versé en quelqu'un qui était complètement faillible, fragile à fond, un trésor incroyable. Mais il a fallu que la partie ciment se défrite pour que donc la partie choisie, le trésor, Pierre, puisse vivre et rayonner. Porte-parole de l'Église, hein, de Jésus-Christ, Pierre. J'ai voyagé en Eurostar là, ces derniers jours et je me suis trouvé en face d'un couple américain. Vous savez, on les reconnaît par l'accent. Hein. Ils parlent la même langue que moi. Enfin, avec un accent comme... Oui, non. On dit souvent que c'est deux pays séparés par la même langue. T'as entendu ça, Labdé? Bon, on a su quand même parler un peu. Et on s'est affiché tout de suite en tant que chrétien. Je ne sais pas comment. Et donc, je pense qu'eux, c'était baptiste et catholique, hein, le petit couple là, en face de moi. Et tout de suite, ils ont évoqué ce qui est arrivé aux États-Unis. Et cette déception terrible, cette espèce de crash qui est arrivé il y a une quinzaine d'années dans les milieux évangéliques, lorsque des télé-évangélistes, ils ont été pris en flagrant délit. Et puis on m'a cité cette histoire d'un prostitué, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais enfin tout le monde évangélique est au courant de cela. Et puis, je ressentais là que derrière cela, il se protégeait. Donc moi, j'ai commencé à raconter une autre histoire d'un autre télé-évangéliste dont il avait entendu parler, qui a passé des moments en prison, Jim Baker, il a chuté à peu près en même temps. Il a passé des années en prison. Il s'est fait quand même rendre visite par un autre pasteur. Il a passé 16 heures d'études, la parole de Dieu en prison. Il s'est fait complètement transformer. Et il est sorti de prison il y a 2-3 ans, il a habité dans un milieu de pauvres et dans toute humilité, en toute simplicité, il a commencé quand même, avec un encadrement de la part des autres pasteurs, de retrouver le goût de la vie. Et même quelque part, je pense qu'il est rentré, de nouveau dans un ministère, pas le même ministère. Le ministère qu'il avait, il a construit le plus grand centre chrétien aux États-Unis et ça a complètement tombé à l'eau. Et maintenant, un autre ministère a pris en main ce centre, ça s'appelle Heritage USA, un centre incroyable, énorme, qui commence à revivre. Mais c'est surtout lui, Baker, qui a commencé à vivre. Et je disais à ce couple dans le train, vous savez, c'est possible d'être restauré, même au service de Dieu, même si on a tombé jusque-là. C'est possible d'être... Je voulais quand même faire passer le message. Ils m'ont écouté comme ça. Je ne sais pas s'ils le croyaient, parce qu'ils avaient marqué quand même par ces chutes donc, au niveau très public. Et je pensais qu'ils, quelque part, ils ne voulaient pas admettre que c'est possible à renouveler, à revenir. Église de Wavrin, c'est possible de vivre des restaurations. C'est possible de retrouver des personnes, peut-être, qu'on a perdu de vue depuis longtemps. parce que Dieu, il est comme ça. Il veut que nous puissions vivre des rêves. Des rêves peut-être que nous avons oubliés, mais qui puissent être quand même ressuscités avec l'Esprit de Dieu. Et je termine avec Jacob. Jacob, le pauvre, vieux, usé, même aveugle, il ne s'attendait pas du tout, même à revoir Joseph, son fils, c'est Genèse chapitre 48. Il dit même à Joseph, là, lors de la rencontre, écoute, j'avais calculé que c'était impossible à te retrouver. Et je pense que c'est Joseph qui lui a répondu, écoute, papa, tu as retrouvé même ta descendance. Ben oui, parce qu'il était avec ses deux fils, effrayé, mais menacé. Quel rêve ! Jacob qui pensait mourir quand même de tristesse, hein, parce qu'il a failli le faire. Là, il retrouve Joseph, et pas seulement Joseph, mais une nouvelle descendance, et il a pu les bénir, il les a pris sous ses genoux. Ça se faisait à l'époque, c'était une manière quand même de transmettre toute donc, la bénédiction du père, là, du grand-père, à des petits-enfants, à la descendance à venir. Tu rêves comme Jacob ? Tu peux retrouver ce dont tu rêves, même si tu es... Non, tu n'es pas vieux. Même si tu as perdu tout espoir, tu peux retrouver la réalisation de ton rêve. Tu peux, parce que c'est Dieu qui le dit. Saisis ton projet. Rentre dans ce que Dieu il a mis dans ton cœur. Jean-Luc en a parlé, on a chacun un projet, on a chacun un rêve, on a chacun quelque chose pour lequel on est fait, et pour lequel on est sur terre. Ce trésor est en nous. Ce trésor est en toi. Mais si tu retrouves ton trésor, et là, je fais une extraction d'un autre verset, tu serais peut-être appelé à aller vendre, non, pas de vendre, mais à aller dépenser tout ce que tu as en toi. Peut-être d'autres choses qui sont secondaires pour que tu puisses retrouver ton rêve. Parce que tu as fait pour que ce rêve puisse s'accomplir. Tu sais, ce monsieur-là, ce cultivateur qui a trouvé un trésor dans un champ et qui est allé vendre tout ce qu'il avait. Je pense que le Seigneur nous demande de revenir sur nos rêves parce qu'il a placé en nous des vases d'argile, un trésor inestimable. C'est qui ? Mais c'est la vie de Jésus. C'est cet esprit de vie qui bouillonne, qui a envie d'être libéré pour que tu puisses rentrer dans ta vraie identité et retrouver la raison pour laquelle tu es sur terre. Je prie que ça puisse être notre vécu pendant les 40 jours, de vraiment rentrer dans les choses où toi et moi, nous allons nous retrouver en tant que personnes qui sont libérées pour rentrer dans un accomplissement de rêve où toute l'Église sera quand même spectateur que nous retrouvons l'épanouissement, nous retrouvons quand même un sens de vivre, enfin un sens dans la vie, parce qu'on a retrouvé ce trésor. Est-ce que nous sommes prêts à peut-être être compris comme ridicule? Ben oui, parce que les gens ils vont quand même se moquer de nous. Hein. De prendre des risques qu'on n'a jamais pris jusque maintenant. De nous sentir faibles et petits, parce qu'on va rester des vases d'argile. Mais ce trésor qui est en nous va quelque part s'éclater, sortir. Et nous serons comme Caleb, que telle ou telle montagne, telle ou telle tâche, nous allons pouvoir l'accomplir, nous allons pouvoir rentrer là-dedans pour la gloire de Dieu. Parce que même si Dieu l'a dit chez Caleb il y a 40 jours, j'ai toujours envie de rentrer dans mon rêve. Seigneur, donne-moi cette montagne. Seigneur, donne-moi ce rêve. Parce que je vais à tout prix rentrer là-dedans pour ta gloire. Amen. Prions. Vas-y, tu pries.